C'est parce que, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est premièrement le Saint-Esprit qui va prêcher et non moi. Donc vous allez faire quelque chose d'inhabituel. On va se mettre par groupe. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner le passage. Il y a une personne qui va lire une première fois le passage, c'est pas long, hein, c'est quelques versets. Une deuxième personne qui va le lire idéalement dans une version différente. Et il y a une troisième personne ensuite qui va reformuler avec ses mots ce qui vient d'être lu. Et ensuite, dans votre groupe, vous allez répondre à trois questions. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage nous dit sur les hommes, sur nous, sur les humains, quoi? Et comment je vais le mettre en pratique? Ok? Et du coup, le passage, c'est très facile. C'est le début du chapitre 28 de l'évangile de Matthieu, le premier évangile, jusqu'au verset 10, tout simplement. De verset 1 à 10 de Matthieu 28. Allez, c'est parti, les amis. Que le Saint-Esprit vous inspire.
Que ce passage nous dit sur Dieu, il nous montre sa puissance et le fait qu'il a ramené Jésus à la vie. Sur les hommes que...
On a mis sur la 2, du coup, que les hommes sont affolés de la nouvelle et qu'ils ont une certaine appréhension et des doutes, qu'ils veulent vraiment voir de eux-mêmes, en fait, si c'est vraiment vrai.
Du coup, nous, pour la 3, on a mis qu'il fallait qu'on aille courir, annoncer la bonne nouvelle, et qu'il ne fallait pas avoir, d'oser demander à Dieu de nous rassurer sur les choses qu'on avait peur.
Alors nous, ce qu'on a retenu sur Dieu, c'est qu'il tient ses promesses.
Nous, par rapport à la deuxième question, donc c'était ce mélange entre la peur et la joie. On a même un sage parmi nous qui citait des exemples de la vie quotidienne où une naissance, une préparation à une naissance, c'est à la fois beaucoup de peur, surtout quand c'est le premier, et puis une joie tellement immense. Puis pareil, le mariage, l'engagement, etc. Donc voilà, c'était cette peur, mais en même temps cette joie énorme.
Non, ce passage... Il touche beaucoup, parce qu'il nous dit d'aller dire la bonne nouvelle, quoi.
Alors ça nous dit de lui qu'il est ressuscité, bien entendu, qu'il est vivant, qu'il est au plus près de nous à chaque instant, et qu'à travers cet acte, il nous montre sa puissance, et que rien n'est impossible à celui qui croit, et on croit en Jésus.
Ben, du coup, moi, au tout début, ça m'a inspiré que, en fait, on a tous une part d'incrédulité à un moment donné, en tenant ses promesses d'avoir annoncé sa résurrection et de l'avoir fait, en fait, ça nous montre sa grandeur et son amour pour nous. Et puis voilà quoi. Enfin, du coup, ça enlève ses craintes et cette incrédulité quoi, de se dire non, il est là, c'est vrai.
Alors la troisième question, on l'a pas vraiment traitée. du coup, moi, ce que je retiens, c'est que c'est Jésus qui parle. Et du coup, ça nous amène aussi, quand on entend sa voix et qu'il nous demande de faire quelque chose, ça nous amène aussi à aller au-delà des doutes, au-delà de la peur, au-delà de l'entendement, même si des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Agissez seulement et écoutez ma voix et allez-y, être dans l'action et voilà, obéissez.
Jésus, en se révélant à une femme qui n'était pas considérée à l'époque, il choisit les choses faibles pour manifester sa gloire. Il est puissant et rien n'est impossible à lui.
Et par rapport à nous, même si on... Justement, en fait, parfois on se sent tout petit, on ne mérite pas qu'il y ait un tel acte d'amour qui soit fait pour nous. Et parfois on attend qu'il y ait des tremblements dans la vie pour croire et l'encouragement. Peut-être qu'on peut croire et déclarer avant qu'il y ait des secousses.
Ça me dit qu'il faut faire confiance, qu'il faut se dire que quoi que l'on voit, il faut faire confiance à Dieu. Et que toute notre vie doit être dictée par ses paroles et ne pas les mettre en doute, surtout.
Et en fait, quand on fait un peu la compilation de tout ça, ce qui est ressorti, en fait, c'est vraiment la marche par l'esprit et se connecter à notre véritable identité, c'est-à-dire à cette véritable source. Une fois qu'on a conscientisé, ça ne doit pas rester dans le mental, ça doit vraiment devenir la vraie source de vie, donc cette identité en tant qu'enfant de Dieu. qui nous permet de franchir tous les obstacles.
Ouais, dans ce texte, il y a deux aspects de qui est Dieu, à la fois la puissance de Dieu, vous imaginez le tremblement de terre, et puis après l'ange qui vient, donc vous imaginez les femmes qui étaient tristes, qui courent au tombeau, il y a ce tremblement de terre, il y a l'ange qui apparaît, donc c'est la puissance de Dieu, et à la fois le côté personnel du Père, l'ange parle, n'ayez pas peur, et il nous rejoint dans les situations les plus difficiles, il y a ce côté de puissance, mais de proximité et d'intimité.
Donc, nous, ce qu'on a retenu, c'est que c'est un Dieu de réconfort et un Dieu de promesses, surtout. Donc, voilà.
Ce que ça nous dit sur Dieu, c'est qu'il est tout-puissant. L'étonnement du peuple face à cela, et que ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il sera toujours parmi nous.
Ce qui est ressorti, c'est que les hommes, la réaction de l'homme face à Dieu, c'est la peur, ce qu'on voit. Mais que Dieu rassure, on le voit par deux fois dans le texte.
Alors, comme application, ce qu'on a retenu, c'est que Dieu est digne de confiance et qu'on doit annoncer sa résurrection avec assurance.
Donc, ce que ça nous dit sur Dieu, donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Bon, voilà, on a résumé aussi sur le fait que Dieu est tout puissant, que Dieu tient ses promesses, parce qu'il avait annoncé qu'il allait ressusciter, il est ressuscité. C'est un Dieu qui amène la paix aussi, puisque voilà, quand on a peur et nos émotions débordent, ben, c'est un Dieu qui amène la paix, qui dit ne soyez sans crainte. Et puis c'est un Dieu qui s'approche de nous, puisqu'il s'est approché aussi des femmes. Et c'est un Dieu aussi qui nous montre la voie, enfin qui nous donne la marche à suivre en fait. Voilà, il nous guide. Voilà.
Alors nous, ce qu'on a retenu, c'est à la fois, et ça a été dit déjà, une grande puissance de Dieu et une grande délicatesse aussi. Et cette délicatesse, on la voit avec cet ange qui est assis et qui dit ce que Jésus a tellement dit, n'ayez pas peur. Parce que la peur nous environne tellement. Donc n'ayons pas peur. C'est les premiers mots de l'ange, c'est les premiers mots de Dieu à l'homme ressuscité. N'ayez pas peur. Juste une deuxième chose, les femmes portent la foi plus que les hommes. Pensez aux mères, aux grands-mères qui ont porté l'évangile, qui ont annoncé l'évangile, et même les femmes juives. Donc là, il y a quelque chose que le Seigneur nous dit. Je ne fais pas du féminisme, hein. C'est vraiment... voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Eh bien, retenir que Dieu est puissant, et en même temps, il y a une grande sobriété dans ce texte, une grande simplicité, et c'est ce qui fait la force de ce texte. Donc on peut annoncer à tous les hommes cet événement inouï, inouï, absolument inouï. D'ailleurs, les hommes et les femmes aujourd'hui commencent sérieusement à se poser la question. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci.
Elisabeth, elle a aussi dit tout à l'heure que dans cette situation, en fait, quand on dit que Dieu est tout puissant, mais vraiment, il ne fait pas les choses à moitié. Voilà. Et que quand il agit de manière, dans des faits impossibles à la base, eh ben, il se donne les moyens et il va chercher des ressources inimaginables, merveilleuses. Grande, quoi. Voilà.
Donc ouais, merci pour tout ce que vous avez partagé, les amis. Je pense que c'est important de réaliser que oui, il y a le ministère de la prédication de la parole, évidemment, mais chacun, Dieu nous envoie, c'est pas dans ce passage-là, c'est juste après, mais déjà quand même, il envoie les femmes, comme ça a été dit, c'est les premières à qui il y a cette mission d'aller annoncer la résurrection, et ensuite, quand il voit ses amis, les disciples, il les envoie pour annoncer pareil cette même bonne nouvelle dans le monde entier. Et en fait, Dieu n'envoie pas 1, 2, 3 privilégiés. Il nous envoie tous, nous tous qui sommes ses disciples. C'est chacun de nous qu'il envoie annoncer la résurrection. Et voilà, j'avais juste envie de compléter ce qui a été dit parce que c'était tellement déjà fort. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit que j'avais moi aussi évidemment retenu en étudiant ce passage. Déjà sur ce matin, comme je vous l'ai dit, ce matin, on était là devant le temple, il y a vraiment quelque chose de particulier dans le fait de se lever et de tout de suite aller voir, célébrer Jésus. De la même manière que ces femmes, ce matin-là, sont allées pour embaumer le corps de Jésus, c'était une tradition juive, mais une tradition très répandue dans ces peuples-là, à cette époque-là, toujours aujourd'hui dans certaines cultures. Mais il y a vraiment quelque chose qui me frappe dans le fait qu'elles sont parties dès le matin. Et ça, c'était mon premier point global, si on peut dire. Et pour soutenir aussi ce point, je voulais vous lire un autre petit texte très connu qui se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 1. Écoutez bien. C'est pourquoi nous tous qui sommes environnés de telles nuées de témoins, on a parlé de témoins ce matin, des anciens membres de l'Église, des familles, etc., et tous ceux qui sont passés avant nous, débarrassons-nous de tout fardeau du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Vous savez combien j'aime courir, vous savez combien j'aime l'endurance. Et ça m'a marqué que dans ces passages de l'Évangile, il y a plein de gens qui courent. Jésus, il envoie et elles partent en courant les femmes pour rejoindre les disciples. Et si vous regardez l'évangile de Jean, il y a même une course poursuite entre Jean et Pierre, et Jean qui ose dire mais je suis arrivé quand même le premier, mais il n'est pas rentré dans le tombeau le premier, mais il dit quand même qu'il est arrivé le premier. Donc ça veut dire qu'il y avait comme une course entre tous les deux, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui courent dans ces passages. Ça me rassure, je dis yes, c'est bien de courir, c'est une bonne chose. Mais dans le fait de courir, ben voilà, il y a cette urgence, il y a ce côté, comme on l'a dit, très charnel, très spontané. Quoi, Jésus est ressuscité, il faut que j'aille vérifier ça, et je cours, quoi. C'est pas le côté intellectuel, réflexion, tout ça, c'est très important, mais il y a des moments dans la vie où il faut courir. Amen. Gardons, c'est la suite de ce passage d'Hébreux, pour illustrer ce premier point de ces femmes-là, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il est vivant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Et il y a vraiment cette idée de garder les yeux fixés sur Jésus. Jésus est mort 2 jours avant, le vendredi, dans des souffrances atroces. Et ensuite, il y a eu le samedi. Vous savez que samedi, pour les Juifs, c'est le sabbat, c'est Shabbat. Et on ne peut pas faire, on ne peut rien faire, on ne peut pas travailler. On reste en famille pour ce temps de repos tellement salutaire. Et il était prévu de toute éternité que Jésus ressuscite après le sabbat, le troisième jour. Et là, ça y est, les femmes se sont dit, ben là, ça y est, on peut aller faire ce travail hein, d'embaumer, on peut aller, on a le droit maintenant, vite, on va aller au tombeau. Mais vraiment, je sens qu'il y avait cette tristesse qui était là, bien sûr, parce que Jésus était mort, et c'est comme si leur esprit s'était occulté, le fait qu'il avait dit qu'il ressusciterait. Mais il y avait quand même cette tristesse qui était dans beaucoup de personnages qui nous sont relatés dans ces évangiles-là, parce que leur ami, leur frère, celui qu'ils avaient conduit, qui les inspirait tellement, celui qu'ils avaient vu faire tellement de miracles, celui qui avait parlé aux foules, celui qui avait multiplié les pains et poissons pour des milliers de personnes, en un instant, paf, tout s'arrête. C'est hyper brutal, quoi. Une semaine avant, la foule est en train d'acclamer Jésus qui rentre à Jérusalem. On l'a fêté la semaine dernière. Les rameaux, la foule porte Jésus. Il y a cet enthousiasme, cette excitation. Une semaine après, paf, tout est terminé, tout est fini. Il est mort dans d'atroces souffrances. Et je pense que c'est valide de ce moment, avant de basculer sur la résurrection, c'est valide ce moment de tristesse parce que c'était terrible la mort de Jésus. Il a payé pour nos fautes à notre place. Vous savez, il y a un des évangiles où il est écrit que Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Et tout est accompli dans le mot grec, c'est comme un terme financier, un terme comptable, de dire tout est payé, tout est payé, la dette. Et c'est important, les amis, cette tristesse, je veux dire que c'est important de réaliser la dette dont on a été libéré, quoi, qui a été payée à notre place. C'est notre péché à chacun qui a mis Jésus sur la croix. Et il y avait cette dette, et c'est lui qui l'a payée à notre place. Et quand on voit les clous qui ont été mis dans ses mains, dans ses pieds, eh bien, c'est comme si c'est nous qui avions planté ces clous par notre péché. Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça de se dire, mais ils n'avaient pas la foi, et ils ne sont pas réjouis, ils n'ont pas cru qu'il allait ressusciter. Mais en fait, c'est normal, il y avait besoin qu'il y ait ce temps de mort. Pour vraiment revivre, il y a vraiment besoin de réellement mourir. Et nous aussi, nous sommes appelés à réellement mourir. Et je voulais vous lire aussi un de mes passages, peut-être mon passage, un de mes passages préférés, de la Bible, Éphésiens 2, qui dit ces choses-là tellement puissamment. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. On était réellement morts, les amis. On ne pouvait apporter rien de positif dans cette histoire. On était totalement séparés de Jésus, de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi qui croyons en Jésus, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, c'est-à-dire des enfants à qui était destinée la colère de Dieu. Et c'est important de réaliser cela. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Et juste de dire, ben voilà, nous sommes passés comme Jésus si nous croyons en lui, si vraiment nous plaçons notre confiance en lui, les amis. Ça n'est pas juste une croyance. Le diable aussi, les démons aussi croient en Dieu. L'existence de Dieu n'est pas remise en question par le diable et les démons. Tout le monde y croit. La question, c'est est-ce que tu veux suivre Jésus ? Est-ce que tu veux accepter Jésus comme sauveur ? Et est-ce que tu veux ensuite aussi l'accepter comme Seigneur ? Et Seigneur, ça veut dire que ce n'est plus toi qui dirige ta vie. C'est Jésus qui dirige ta vie, qui te montre un chemin que tu choisis d'emprunter à sa suite. Amen. Et qu'est-ce qu'on voit aussi dans le passage que vous avez lu ? Il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre quand l'ange est apparu. Et ça m'a fait penser au tremblement de terre qu'il y a eu avant ça, quand Jésus était sur la croix. Et si vous vous rappelez, vous lisez ça dans Matthieu 27, dans les autres évangiles aussi, eh bien, au moment où Jésus a expiré, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, hein, on le chante. Mais c'est tellement incroyable de réaliser que d'autres sont ressuscités avant Jésus. Il y avait des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui étaient dans les tombes aux alentours. D'un coup, les tombes se sont ouvertes, qui sont sorties de terre, qui sont devenues vivantes. En fait, il y a une puissance de vie qui a été relâchée. Et la puissance de vie aussi, elle est imaginée dans quoi ? Le rideau dans le temple a été, on l'a chanté ce matin, déchiré. Et attention, il a été déchiré pas de bas en haut avec une paire de ciseaux comme on pourrait faire. Il a été déchiré de haut en bas, totalement. Et vous savez, peut-être tu ne sais pas ce matin ce que représentait ce voile, ce rideau dont Olivier aussi a parlé. Ce rideau, ce voile, il séparait les hommes de la présence de Dieu. C'était l'accès au lieu très saint, là où était l'arche d'alliance, là où le souverain sacrificateur du judaïsme ne pouvait rentrer qu'une seule fois par an en suivant tout un tas de rites. On n'était même pas sûr qu'il allait pouvoir en sortir vivant. Il avait une corde attachée à son pied pour qu'on puisse le tirer s'il n'en sortait pas vivant. Parce que l'homme, c'est écrit dans l'Exode, on ne peut pas voir Dieu et vivre. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Sauf que par la mort et la résurrection de Jésus, ce voile a été déchiré. Jésus a permis que nous puissions voir Dieu et vivre, que nous puissions avoir un accès total, illimité, sans restriction à la présence de Dieu. Et ça, les amis, c'est une réalité. C'est ça que nous montre ce voile déchiré. Imaginez, moi je me disais, mais les Juifs, ça faisait des milliers d'années qu'ils avaient ce voile dans le tabernacle, puis dans le temple. Ils étaient tellement habitués, presque des fois, vous savez, c'est comme une sécurité, c'était toujours là, ce voile était toujours là, on savait ce qu'il y avait derrière, on savait. Et ce voile, d'un coup, ça veut dire que tout leur système de pensée, tout leur système de foi même a été renversé en une seconde, quoi. En une seconde, imaginez le tremblement, au-delà du tremblement de terre, le tremblement intérieur pour toutes ces personnes, quoi. C'est, imaginez tout ce qu'on vit, nous, en tant que tu as grandi dans l'église comme la nôtre, évangélique ou quoi, et du jour au lendemain, on te dit, ah ben non, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça n'a plus aucune valeur. Ça n'a plus aucun... Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, le voile a été déchiré, la lumière, la présence de Dieu a pu être ouverte au monde entier pour ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et qui choisissent de lui donner, de lui confier leur vie. Amen. Et ça, les femmes, ça m'a touché. Chaque fois, je dois retaper le code, c'est hyper pénible. ça m'a touché de voir que les femmes, eh bien, elles ont gardé les yeux fixés sur Jésus, sur leur Jésus, parce qu'elles le connaissaient, elles avaient une relation avec lui, et elles sont allées, et là, elles ont vu l'ange. Et ensuite, elles ont vu Jésus. Et mon deuxième point, c'était que qu'est-ce qui s'est passé quand elles ont vu Jésus ? Ça a été tellement bien dit, il y avait de la peur, et en même temps, il y avait de la joie. Et elles se sont jetées à ses pieds, et elles l'ont adoré. Et ça, ça me parle tellement, et ça me rappelle tellement Marie qui, quelques jours plus tôt, l'onction à Béthanie, vous connaissez cette histoire, qui répand le parfum sur les pieds de Jésus et qui lave avec ce parfum, avec ses larmes, les pieds de Jésus. Elles ont répété ce geste, en fait, d'adoration envers Jésus, parce que ça y est, elles retrouvaient leur ami, leur sauveur. Et ça, c'est vraiment la deuxième chose qu'il nous faut, nous aussi, si on veut vivre dans la résurrection, si on veut courir cette course que Dieu a ouvert devant nous, ce chemin qu'il a ouvert devant nous. Premièrement, garder les yeux fixés sur Jésus, penser à lui, ne pas le laisser, ne pas mettre de distance, ne pas passer à autre chose, mais vraiment penser à lui en permanence. Et deuxièmement, de l'adorer. Deuxièmement, de le laisser venir, toucher, avoir ce cœur à cœur avec lui, comme ces femmes nous montrent dans ce temps d'adoration, quand elles viennent à ses pieds et qu'elles l'adorent. Et là, Jésus, voilà, il leur dit, n'ayez pas peur. Et vraiment, c'est beau de voir que Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme, et il est tellement attaché à nos cœurs, à ce cœur à cœur qu'on peut avoir avec lui, que le Père peut avoir avec nous. Et c'est pour ça que tout de suite, il veut les rassurer. Il veut les rassurer, c'est écrit tellement de fois dans la Bible, n'ayez pas peur, une fois par jour, 365 fois. Il y a vraiment cette volonté de Dieu de toucher notre cœur, que notre cœur puisse être transformé par lui, que nous ne soyons pas dans la peur, mais l'amour de Dieu. Et vous connaissez ce verset, 1 Jean 4, verset 18, peut-être vous ne le connaissez pas, et du coup je vous le lis pour la première fois. La peur n'est pas dans l'amour. En fait, la peur et l'amour sont deux forces qui ne peuvent pas cohabiter. Mais l'amour parfait bannit la peur, car la peur suppose un châtiment. Si on a peur, on n'est pas en sécurité, on a peur d'une punition, d'un châtiment. Celui qui a peur n'est pas mature dans l'amour, mais pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et en fait, l'amour de Jésus qui l'a amené à aller jusqu'au bout, à payer le prix sur la croix, qui l'a amené à finir ce travail et à bien sûr ressusciter. La mort ne pouvait pas le retenir, évidemment. Qu'est-ce qu'a cru l'ennemi ? La mort ne pouvait pas le retenir. Il est venu à la vie. Mais c'est son amour qui est venu et qui nous permet aujourd'hui que nos cœurs, de la même manière que ces femmes-là, ce matin-là, soient touchés par l'amour de Dieu et que nous soyons délivrés de nos peurs. Vous savez, j'ai réalisé ces dernières années combien la peur, c'est vraiment notre ennemi numéro un et qu'elle prend une tonne de formes différentes. Combien de peurs on peut avoir au quotidien ? La peur du manque. Dans nos sociétés matérialistes, il faut le dire, il y a tellement une peur du manque en permanence. Je parlais parfois avec des patients dans mon métier d'infirmier ces derniers jours, il y a les prix de l'essence, vous savez, et oui, des fois c'est pas facile, mais c'est comme s'il y avait des peurs irrationnelles qui venaient avec ça. Ça peut être la peur d'être rejeté, peut-être tu as été rejeté, la peur de ne pas être accepté. Les peurs peuvent prendre tellement, c'est des peurs qui sont nourries depuis notre plus tendre enfance. Et Dieu vient, Jésus est là, son cœur vient et touche notre cœur pour que nous soyons délivrés de la peur et qu'à la passe de la peur, il nous donne quoi ? La joie. Parce qu'il y avait la joie qui était là dans ce moment aussi, cette joie de la résurrection. Et pareil, on me disait ces derniers jours, quelqu'un me demandait, mais comment vous faites, vous avez quatre filles, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je pense, qui disait, mais comment vous faites, vous avez quatre filles par rapport au futur, etc. Ça ne vous fait pas peur, tout ce qu'on voit et tout? Alors déjà, je lui dis, déjà, régulièrement, je coupe les infos, j'arrête d'écouter. Ça, je pense que c'est un truc un peu de bon sens à faire. Mais deuxièmement, je lui disais, mais madame, j'ai l'espérance de la résurrection. quand on a la foi, on a une espérance qui est en nous, qui est indestructible. Et à dire, ah ben oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais les amis, au-delà de beaux discours, c'est une réalité. Comme dit Olivier aussi tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qu'on force, ce n'est pas une connaissance intellectuelle qu'on va forcer à se dire, oui, je dois croire. Non! On avait un ami, souvent on en plaisantait, à Bedford, et un ami congolais, je crois, et on faisait partie d'un groupe de maisons francophones en Angleterre, et on lui disait « Ah, bonjour, comment tu vas, Sébastien ?» Et on lui disait, vous savez comment on s'accueille ?« Ah, bonjour, bonsoir, comment tu vas ?» Et lui, d'un coup, il disait « Mais comment ça ne pourrait pas aller ? Dieu est sur son trône !» Alors, à chaque fois, on était là, surpris. « Ah oui, c'est sûr, t'as raison. » Mais si vous voulez, il était tellement convaincu de ça, et presque notre question, l'insulter, quoi, l'énerver. « Comment ça ne pourrait pas aller ? Dieu est sur son trône !» Et il y a quelque chose de ça, les amis, de réaliser que cette croix, il n'y a plus personne dessus. La croix est vide et je pense malheureusement, et je me mets dedans les amis, que trop souvent on vit comme si Jésus était encore sur la croix. On vit comme si Jésus était encore dans le tombeau. Sauf que la croix est vide et le tombeau est vide. Il y a eu un avant et un après. On a eu la chance d'aller en Israël dans le jardin de la tombe. Et je ne sais pas si c'était le lieu exactement, mais en tout cas c'était un lieu qui ressemblait vraiment à ça. Et de pouvoir se réaliser, de voir ce tombeau, ce vrai tombeau pour le coup, avec le lieu de passage de la pierre énorme qui a été roulé, et ce tombeau, je vous le dis, on a vérifié, il était vraiment vide. Il était vraiment vide. Et Jésus est là, au milieu de nous ce matin. Et on peut le voir, ne serait-ce que dans tous les uns les autres, comme ça, de voir cette beauté de tout ce que nous partage aussi la parole de Dieu. Amen. Mais c'était pour la joie, on l'a lu dans Hébreux, c'est pour la joie, parce qu'il avait en vue la joie. En fait, Jésus est mort. Et vous savez, je ne vais pas vous dire toutes mes notes, on n'a pas le temps, mais... C'est un peu comme dans le psaume 23, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. On n'est pas habitué à appeler à rester dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est un passage. De la même manière, Jésus est passé par la croix. Il n'est pas resté sur la croix, c'était juste un passage. Et nous aussi, quand nous avons des difficultés, quand il y a de la mort dans nos vies, ce n'est pas quelque chose qui va durer éternellement. Vous pouvez lire le livre aussi, ça me vient de Daria Reichor, qui a vécu tellement de choses horribles. Le livre s'appelle « La tempête passe ». C'est juste un passage en fait, parce que nous, on n'est pas appelés à vivre la souffrance éternellement. On est appelés à vivre la joie du Seigneur éternellement. Amen. Je l'ai mis quelque part, Seigneur aide-moi à retrouver, c'est le psaume 16 qui nous dit qu'est-ce qu'on est appelé à vivre. Voilà, psaume 16, ce qui nous attend auprès de lui, c'est ça. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître. Et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'effraient à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe que je bois. Écoutez bien ce psaume messianique. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire mes pensées. Je garde constamment, comme les femmes, les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Tu n'abandonneras pas, ça parle de Jésus, tu n'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître les chemins de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Voilà les amis ce qui est prévu pour nous. Voilà ce pourquoi Jésus a enduré la croix, parce qu'il avait en vue la joie de voir tous ses enfants réunis avec lui pour l'éternité. Amen. On n'est pas une religion, on n'est pas une foi, on n'est pas un culte qui glorifie la souffrance. La souffrance nous permet de trouver des trésors de persévérance. C'est ça l'endurance. Hein. Moi, je dis quand je vous fais des marathons, quand tu arrives au kilomètre 30, tu n'es plus du tout dans la joie, tu es dans la souffrance. Sauf que tu vois bientôt la ligne d'arrivée arriver. Et tu as en vue cette joie de passer la ligne d'arrivée. La souffrance, c'est juste, c'est un passage nécessaire, souvent, malheureusement, enfin, c'est comme ça, qui nous permet de découvrir Dieu, de découvrir des profondeurs de son amour, de sa grâce. mais c'est un passage parce que nous sommes appelés à vivre cette plénitude et ce bonheur éternel auprès de lui. Amen. Et mon troisième et dernier point, c'était d'aller dire à mes frères, Jésus qui leur dit, qui dit aux femmes, allez dire à mes frères. Il y a cet enthousiasme, il y a vraiment et elles y courent d'ailleurs. Malheureusement, ils ne les croient pas, mais elles y courent les voir. Il y a vraiment un enthousiasme. Et c'est vrai, je me disais, juste avant la discussion avec cette personne dont je vous parlais, je priais, je disais, Seigneur, permets-moi d'avoir une conversation où je peux parler de toi, permets-moi. Je pense que c'est important qu'on soit dans cette recherche, vraiment, que ça prenne corps, tout ça prenne vie dans notre quotidien avec toutes les personnes que l'on côtoie. Amen. Ce n'est pas un travail d'annoncer la bonne nouvelle. Ça devrait être notre réaction spontanée quand on réalise que Jésus a fait pour nous et qu'on réalise qu'il est ressuscité. Amen. Et moi, je l'ai pendant le week-end de Pâques. Chaque année, j'ai une excitation pendant le week-end de Pâques parce que c'est tellement extraordinaire tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fête pendant ce week-end-là. On a eu la chance, je ne sais pas si beaucoup l'ont fait, mais grâce au livre de Loïc, de vivre le Seder de Pessah dans la semaine. Et quand on réalise chaque symbole, etc., qu'est-ce que c'est beau. Mais ça devrait être au-delà de la semaine de Pâques. La semaine de Pessah, c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre dans notre quotidien. Amen. Et gardons les yeux fixés pour Jésus. Je vous laisse avec cette dernière aspect. C'est important d'avoir une vision. C'est important d'être intentionnel. Gardons les yeux fixés sur Jésus, comme dit Hébreux, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Vous savez, l'organe, les yeux, c'est ce qui nous permet de voir où on va. C'est ce qui nous permet de ne pas tomber par terre. Quand on apprend un enfant à faire du vélo, j'y suis passé plusieurs fois ces dernières années, eh bien, on voit que si l'enfant se focalise sur la route devant comme ça, il ne va pas trouver l'équilibre. Mais si l'enfant regarde loin devant, c'est là qu'il va trouver l'équilibre. Et les amis, avoir une vision, c'est tellement important. Et je vous invite à être des visionnaires pour votre vie, à avoir un plan, de dire où est-ce que je veux aller avec Jésus, dans quelle direction je veux te suivre, Jésus, sur ce chemin de la foi, et de ne pas rester focalisé sur les circonstances présentes qui peuvent souvent nous dérouter, mais d'avoir un but. Et c'est Jésus, notre but. Amen. Sur ce chemin de la foi. Écoutez, il est tard, on a vécu plein de belles choses, mais j'ai vraiment à cœur de finir en priant. Donc, je vous propose de se lever et de clôturer le culte comme ça. Oh Seigneur, c'est tellement bon. Seigneur, c'est tellement bon. C'est presque meilleur que Noël, Seigneur. Pâques, il y a vraiment quelque chose de fou. Chaque année, Seigneur, on ne se lasse pas de fêter ta résurrection. Parce que, Seigneur, ça n'est pas quelque chose, c'est pas une routine attachée à des rites sans vie, Seigneur. Tu es là, Seigneur. L'auteur de la Pâque, comme c'est écrit dans l'Évangile, Jésus, c'est toi notre Pâque. Tu es notre Pâque, Seigneur. Et Seigneur, viens encore toucher nos cœurs. Merci, Seigneur, on a beaucoup prié pendant ce culte pour être libérés de la peur. Seigneur, ta parole insiste sur ces choses. Nous sommes appelés à vivre libres, comme le peuple hébreu a été libéré de l'esclavage d'Égypte. Seigneur, tu nous as libérés par ton sang de l'esclavage du péché, Seigneur. Nous ne sommes plus appelés à être des victimes, Seigneur. Nous sommes vainqueurs avec toi, Seigneur. Tu nous envoies vivre, Seigneur, même des choses impossibles, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit, parce que tu es ressuscité. Comme Paul le dit, Seigneur, si tu n'es pas ressuscité, notre foi est une folie, notre foi est vaine, Seigneur. Mais le tombeau est vide, la croix est vide, tu es ressuscité. Il y a plus de 500 personnes qui t'ont vu après la croix. Merci, Seigneur, de cette assurance de la résurrection. Seigneur, quel avantage les disciples avaient. Ils sont tous morts dans les années qui ont suivi quasiment, dans d'atroces souffrances. Ils n'ont pas fait ça pour attirer la lumière sur eux. Ils ont fait ça parce que tu as changé leur vie, parce que tu es mort et le troisième jour, tu es ressuscité. Seigneur, vraiment, je clôturerai par ça. Seigneur, on a parlé de nos frères chrétiens dans le monde qui fêtent Pâques aujourd'hui, dans des églises peut-être qui sont à moitié effondrées, en fuyant les balles, en fuyant les missiles. Seigneur, nos chers frères et sœurs chrétiens, Seigneur, Seigneur, permets que nous soyons dignes de leur témoignage. Permets que nous soyons dignes de ton Église persécutée qui souffre, Seigneur Jésus, sur tous les continents du monde, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, d'annoncer chaque jour ta résurrection, Seigneur. D'annoncer l'espérance de la vie éternelle chaque jour, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, je bénis chaque famille présente, chaque individu présent dans ce lieu en ton nom. Je vous bénis les amis dans le nom de Jésus pour que comme les femmes qui sont parties en courant, vous sortiez de cette salle en courant pour aller annoncer dans vos familles, pour aller annoncer dans vos travails, pour annoncer dans vos voisinages que Jésus est ressuscité. Dans le nom de Jésus, amen. Amen, les amis. Soyez bénis. Bon appétit.